Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Depuis les géopolitiques de Nantes, à l'initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, regarde sur le devenir de la Syrie. La question se pose alors que la guerre fait rage depuis déjà 6 années, faisant sans doute près d'un demi-million de morts pour 22 millions de Syriens, dont plus de la moitié de déplacés. Djihadistes, Russes, Kurdes, Turcs, Iraniens, Américains, comment trouver une solution face aux intérêts divergents des multiples acteurs régionaux et internationaux? La défaite de l'État islamique marquera-t-elle la fin des hostilités en Syrie? Quelle reconstruction envisager dans un pays ravagé? Quelle solution militaire, diplomatique et politique? La Syrie pourra-t-elle connaître la paix? Quand et à quelles conditions? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités, Basma Khodmani, directrice de l'Initiative arabe de réforme, auteure et directrice de plusieurs ouvrages et publications, notamment sur les conflits du Moyen-Orient et l'évolution politique des sociétés arabes, membre depuis 2016 de la délégation des négociateurs de l'opposition syrienne à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Yves Aubin de la Mussusière, ancien directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay, ancien ambassadeur en Irak, Tunisie et Italie, président d'honneur de la mission laïque française, auteur de Monde arabe, le grand chambardement aux éditions Plomb. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions stratégiques et internationales. Bonjour.
Bonjour.
Où en est-on de la situation sur place en Syrie? Est-ce que l'État islamique vit sa dernière année en Syrie et sa défaite marquera-t-elle la fin des hostilités en Syrie, sachant que les quantités d'armement déversées par tous les belligérants fait augurer des potentialités de violence impressionnantes, Basma Khodmani?
La bataille contre Daesh en Syrie est en bonne voie de se terminer, avec une grande interrogation bien entendu, où vont ces combattants qui sont chassés, ceux qui ne meurent pas sur place? Ils vont dans d'autres régions de Syrie d'abord, puis ils essaient de traverser la frontière, aller ailleurs. Cet aspect-là du conflit, qui est la plus récente, ou le plus récent, est en passe de se terminer. Le chapitre Daesh en Syrie et en Irak pourrait se terminer sous l'appellation Daesh. D'autres mouvements terroristes sont là. Ce qui est important dans le conflit, c'est l'origine de ce conflit et où nous en sommes de la tuerie qui dure depuis 7 ans, qui est partie d'un mouvement de révolte pacifique contre la dictature et qui aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre complète qui implique des pays de la région, des mouvements transnationaux, des milices qui viennent des pays voisins comme le Hezbollah, etc. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de tentative menée essentiellement par la Russie pour stabiliser le terrain, autrement dit pour refroidir le conflit. J'emploie un terme réellement, il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit, il s'agit de refroidir, autrement dit d'arrêter les morts quotidiennes dans ce conflit. Alors, elles se sont ralenties, on va dire ralenties et non pas arrêtées, dans la plupart des régions, sauf une, qui est aujourd'hui le plus grand défi pour la communauté internationale, véritablement. Après Alep, au mois de novembre de l'année dernière, qui était un massacre innommable, nous sommes aujourd'hui devant un risque d'un massacre encore plus important et plus difficile pour quiconque essaye de mettre fin aux mouvements terroristes qui sont présents dans cette région. Mais à quel prix? Est-ce toute la population civile qui va partir? Combien de morts aurons-nous? Aurons-nous une répétition d'Alep avec une impuissance totale de la communauté internationale? C'est la grande interrogation aujourd'hui. La région dite de Idlib, au nord-ouest, à la frontière avec la Turquie, est un point de cristallisation aujourd'hui de tous les aspects de ce conflit et il nous annonce quelque chose de terrible si rien n'est fait.
Alors, plusieurs choses par rapport à tout ce que vient de dire Basma Khodmani. Ce que j'entends, bien évidemment, c'est que la fin de Daesh ne marquera pas la fin des hostilités, Yves Aubin de la Mussusière.
Oui, donc tout à fait, je suis tout à fait dans la même ligne que Basma Khodmani. concernant l'évolution de Daesh, mais Daesh va donc disparaître en tant que État islamique, en tant de ce qu'on appelait un proto-État, parce qu'il avait pratiquement toutes les caractéristiques d'un État. Il avait une capitale économique à Mossoul, une capitale politique à Raqqa, qui était en cours de reconquête. Il y avait des ressources, un territoire homogène, presque exclusivement sunnite. Et on disait à un moment, il ne manquait plus que la reconnaissance internationale, qui évidemment était hors de question qu'il puisse y avoir une reconnaissance internationale. Mais maintenant, on assiste à une forme de mutation. Et on voit qu'en dehors des villes encore contrôlées par Daesh, donc ils seront évincés là très prochainement, il n'y a pas de doute, mais ils vont se ruraliser. Ils vont se disperser dans le territoire. Et on voit là où on pense qu'ils ont disparu, récemment encore, il y a eu des confrontations avec l'armée syrienne et des pertes importantes, encore une fois, avec, donc de l'armée syrienne. Et c'est intéressant de voir que le calife autoproclamé, el-Baghdadi, s'est exprimé là récemment. Il a reconnu d'ailleurs ses échecs. Mais pour dire maintenant ce qui est véritablement une véritable préoccupation pour notamment les Européens, c'est maintenant combattre sur place. Ne venez plus faire votre djihad. Alors ça, c'est une autre forme. Mais alors là aussi, il y a une interrogation. Basma Khodmani a parlé de Idlib, et c'est là où se trouve l'épigone de Al-Qaïda, qui s'est transformé en Front al-Nusra, et qui maintenant apparaît sous une nouvelle appellation, et qui a essayé de fédérer d'autres mouvances islamistes venues d'Alep. Donc il y a une espèce de désordre. On ne sait pas quelle est véritablement la situation. Et là, il y a eu récemment, c'est très intéressant, une rencontre entre Erdogan et Poutine. Poutine est allé à Ankara. Et il a laissé entendre, et paraît-il, ce serait l'accord, que les troupes turques puissent rentrer dans la région d'Idlib pour participer au combat. Alors voilà, donc, cette espèce de désordre. Donc, on n'en est pas encore terminé avec, disons, les différentes organisations terroristes en Syrie, malheureusement.
Jean-Dominique Merchet.
Oui, tout ce qui vient d'être dit est très juste. On peut essayer de changer un peu la focale et d'élargir à la fois à la région et à l'histoire. La région, c'est évidemment l'Irak, qui est très lié à la Syrie. Et l'histoire, c'est qu'on voit qu'il y a deux États qui ont été créés il y a un siècle, des découpages absolument artificiels liés au colonialisme européen. Les Britanniques étaient en Irak, les Français étaient en Syrie. N'oublions jamais que la Syrie est une création de la France, comme le Liban, entre les deux guerres mondiales. Et on voit que ces États, pendant des décennies, ont été dirigés par des minorités. C'était le cas en Irak, où les sunnites sont minoritaires, les arabes sunnites sont minoritaires, ils dirigeaient une population majoritairement et aujourd'hui assez massivement chiite. Alors qu'en Syrie, on voit des minorités, notamment cette minorité alaouite, celle du président Assad, mais qui s'est alliée à d'autres minorités, les chrétiens, une partie de la bourgeoisie sunnite, une partie des Kurdes d'une certaine manière, pour diriger une majorité de gens qui sont sunnites. Et on voit que ces deux États, au fond, n'arrivent pas à se reconstituer. Cette semaine, il y a eu ce référendum en Irak, au Kurdistan irakien, où on a vu effectivement une partie de ce pays aspirer à se détacher de l'ensemble d'Irak. Il y a cette tentation aujourd'hui dans le nord de la Syrie avec les Kurdes, et qui sont à la fois nos alliés militaires dans cette bataille de Raqqa contre Daesh. Un soldat français est mort la semaine dernière en combattant auprès des Kurdes. Et en même temps, on voit bien que ces Kurdes sont pas totalement hostiles au régime en place. Donc, on est si on prend du recul historique, on voit qu'on est dans quelque chose de longue durée et qui va évidemment pas se régler dans les mois qui viennent.
Vous écoutez RFI. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, Basma Khodmani, je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez précédemment, c'est cette tentative stabilisatrice de la Russie, volonté de refroidir le conflit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, d'une certaine manière, la Syrie est entre les mains de la Russie et quelle place pour l'Iran dans ce que vous évoquez, dans ce panorama
Aujourd'hui, quels sont les pays qui sont présents militairement, directement sur le terrain? Ce sont la Russie, effectivement, mais c'est aussi l'Iran qui, depuis à peu près 5 ans maintenant, est présent directement et de plus en plus massivement. Et nous avons également la Turquie qui, à partir du nord, a fait une entrée massive en territoire syrien pour combattre les Kurdes essentiellement, mais installer aussi des pouvoirs locaux qui lui sont proches. Et aujourd'hui, vous l'avez noté, peut-être que le président Poutine a donné le feu vert au président Erdogan pour organiser la zone nord-ouest. Et quand je dis organiser, je le dis sur un ton un peu ironique, il s'agit pour la Turquie de créer l'ordre qui lui convient. Nous ne savons pas à quoi il ressemblera, mais cette zone est sous influence turque. La présence de la Russie est incontestable. Les Syriens ont compris, lorsque la Russie est intervenue massivement, militairement, à la fin de l'année 2015, en faveur du régime, elle a remis en selle un régime qui était sur le point de s'effondrer. Le ministre Lavrov lui-même a dit, si nous n'étions pas intervenus, nous étions à 2 semaines de la chute de ce régime. Donc la Russie est intervenue pour remettre en selle le régime d'Assad et pour lui permettre de reconquérir des territoires importants.
L'Iran n'y suffisait pas, Basma Khomeini.
L'Iran avait effectivement amené de plus en plus de combattants, d'abord du Hezbollah, puis d'Irak, puis de pays plus lointains, l'Afghanistan, le Pakistan, la caractéristique étant qu'ils sont toujours des chiites pour former des milices confessionnelles à base chiite. Ces combattants ne suffisaient plus et l'Iran est allé chercher aussi l'aide de la Russie sur le plan aérien. Il avait besoin d'une couverture aérienne et c'est effectivement les combattants organisés par l'Iran d'une part, l'aviation russe qui ont permis des avancées majeures qui aujourd'hui s'inscrivent au crédit du régime, mais ce n'est pas le régime qui a reconquis ces terrains. Le fait est que nous avons une situation, un rapport de force sur le terrain où la Russie est en position de jouer les médiateurs. Et elle joue les médiateurs au plan local, mais nous attendons véritablement, d'une part, qu'elle clarifie quelle sera la présence de l'Iran en Syrie. Est-ce que l'Iran a droit à une présence militaire, la réponse est non, sinon nous n'aurons pas d'État syrien efficace. Une présence d'un autre ordre, nous ne savons pas du tout ce que l'Iran cherche exactement en Syrie. On a tous les soupçons possibles et imaginables, mais il cherche sans doute un point stratégique, un accès stratégique qui lui permet de passer d'Iran par l'Irak, puis par la Syrie pour accéder au Liban où se trouve la milice d'élite qu'est le Hezbollah et qui est l'allié direct de l'Iran. Mais en dehors de cela, nous ne savons pas ce que l'Iran veut en Syrie même. En revanche, la Russie, on voit qu'elle cherche aujourd'hui à stabiliser. Est-ce qu'elle veut une solution politique? A-t-elle compris qu'il n'y a pas de solution politique en maintenant le régime dans l'État? Est-elle prête à envisager une vraie transition dans ce pays, auquel cas nous avons peut-être moyen de travailler avec la Russie? Mais pour l'instant, malheureusement, la Russie bombarde aujourd'hui la région du Nord-Ouest, bombarde des hôpitaux, des civils tombent encore, exactement comme Alep l'année dernière. Donc nous sommes peut-être dans un cycle monstrueux, une fois de plus, et dire que la Russie est le médiateur potentiel, c'est remis à plus tard, pour ne pas dire davantage.
Alors, il y a tout de même un pays dont vous n'avez pas parlé, Basma Khomeini, ce sont les États-Unis qui sont aussi présents. Dans cette triangulation États-Unis, Russie, Iran, est-ce qu'on peut voir et imaginer les États-Unis faire alliance avec la Russie pour empêcher l'Iran de prendre l'ascendant auquel il pourrait aspirer? Question, Yves Aubin de la Messusière.
Oui, alors pour revenir au propos de Basma Khomeini, bon, la Russie, on va parler des États-Unis, la Russie donc a permis de sauver, effectivement, de remettre en selle le régime, ça il n'y a pas de doute. Et maintenant, elle se trouve certainement dans une situation de vouloir être au cœur de la solution politique, d'où le processus d'Astana qui réunit à l'initiative au Kazakhstan, donc c'est la Russie, avec les Turcs et les Iraniens. Et à un moment, il était question aussi que Astana puisse donc s'occuper du processus politique. Il y avait même eu un projet de constitution et tout ça n'a pas fonctionné. Donc la Russie a bien conscience que la solution politique ne se trouvera pas au cœur donc de ce qu'on appelle le processus d'Astana. Et tout à l'heure, on parlera probablement du processus de Genève. Et donc la clé là maintenant, elle est iranienne. La présence iranienne est formidable. Moi, j'ai pu le constater moi-même juste avant la guerre parce que j'ai fait un long voyage pour voir une présence iranienne considérable, des investissements, pas uniquement d'État, privés, des mosquées chiites qui se créent, des quartiers entiers du vieux Damas acheté par les Iraniens. Et donc, il y a cette alliance stratégique très ancienne depuis 1979 entre le régime iranien et le régime de Bachar el-Assad. Ça, il faudra tenir compte de cette force et qui fait que on a l'impression qu'il y a des désaccords entre Moscou et Téhéran au sujet de la solution politique. Et en plus, pour venir à l'Iran, avec qui discuter? Nos diplomates, les diplomates européens, notamment français, ils discutent sur l'avenir de la Syrie avec les Iraniens, mais c'est au niveau du président Rouhani, du ministre des Affaires étrangères, mais on sait très bien que le dossier est tenu ailleurs par donc les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Alors pour revenir aux États-Unis, les États-Unis eux, agissent depuis Trump uniquement sur le plan militaire. Donc en participant à des bombardements qui restent massifs, ils soutiennent le Front démocratique syrien qui est constitué plus de Kurdes que d'Arabes, là, effectivement. Bon, c'est considéré, ces Kurdes, c'est le PKK, donc sous une autre forme, organisation terroriste, mais finalement reconnue comme telle par les États-Unis, par l'Europe, mais enfin, les Américains le soutiennent. Mais on a l'impression d'une absence totale des États-Unis dans la perspective de la solution politique pour le moment. On ne sait pas quelle est la position. Et pour la France et pour les Européens, il faut les remettre à bord pour équilibrer effectivement le poids considérable de la Russie et voire des Iraniens. Mais le problème, c'est que nous, les Français et les Européens, on veut remettre à bord les Iraniens. La grande erreur de la France, à l'époque de Fabius, c'est d'exclure les Iraniens. Mais donc là, il y a un obstacle et un refus total de la part des Américains à ce stade.
Jean-Dominique Merchet.
Sur les États-Unis, je crois que les États-Unis n'ont pas de politique syrienne. Ils ont une politique vis-à-vis de l'Iran, une politique d'hostilité vis-à-vis de l'Iran. Ils ont une politique irakienne, donc c'est vraiment le même théâtre. Ils savent combien ils ont contribué à semer la panique dans ce pays. Et ils essaient tant bien que mal de réparer les dégâts. Et ils ont une politique israélienne dans la région. Mais ils n'ont pas de politique syrienne. Et la Syrie se trouve simplement au milieu. Et par exemple, l'une des choses essentielles qu'ils veulent empêcher et qui correspond absolument aux intérêts stratégiques de l'État d'Israël, c'est ce lien géographique entre l'Iran et le Hezbollah. Le Hezbollah, il faut comprendre que c'est la seule armée qui inquiète l'armée israélienne. Aucune armée de la région n'inquiète l'armée israélienne, sauf le Hezbollah. Or, le lien géographique par l'Irak et la Syrie, et c'est pour ça l'enjeu de la bataille de cette ville dans l'est de la Syrie qui s'appelle Deir ez-Zor, qui est un peu le nœud là où ça se joue en ce moment, c'est ça, c'est ce lien géographique qui permettrait à l'Iran en permanence de ravitailler le Hezbollah en missiles notamment. Et ça, pour les Américains, c'est non. C'est non, parce que ça correspond aussi aux intérêts stratégiques de l'État d'Israël. Donc, effectivement, il y a une absence de réflexion américaine sur la Syrie, et donc on ne voit pas du tout ce qu'ils veulent faire.
Alors, absence de réflexion américaine sur la Syrie, et une analyse par défaut, on a envie de dire, parce que finalement, la position aujourd'hui des États-Unis à propos de l'Iran, elle est avec un lien direct sur la question syrienne. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission la question des négociations, celle d'Astana, celle de Genève, dont on attend qu'elles reprennent, avec aussi cette volonté du président français de réintroduire la France dans le jeu diplomatique sur un dossier où Paris s'est totalement mise hors jeu, avec la création ou le souhait de création de ce groupe de contact qui s'ébauche. Les ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité se sont réunis récemment en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Que changera le réveil de la diplomatie française? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Basma Khodmani, Yves Aubin, Lamy Suzière et Jean-Dominique Merchet dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le devenir de la Syrie depuis les géopolitiques de Nantes. Nous retrouvons nos invités, Basma Khodmani, directrice de l'initiative arabe de réforme, auteure et directrice de plusieurs ouvrages et publications, notamment sur les conflits du Moyen-Orient et l'évolution politique des sociétés arabes, membre depuis 2016 de la délégation des négociateurs de l'opposition syrienne à Genève, Yves Aubin de la Messuzière, ancien directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay, ancien ambassadeur en Irak, Tunisie et Italie, président d'honneur de la mission laïque française et auteur de Monde arabe, le grand chambardement, paru aux éditions Plomb, et Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions stratégiques et internationales. La question des négociations, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, il y a les négociations d'Astana qui sont conduites par la Russie, les négociations de Genève au point mort et qui devraient reprendre, et l'initiative d'Emmanuel Macron, président français, pour réintroduire la France dans le jeu diplomatique, dossier duquel Paris est sorti d'une certaine manière il y a à peu près 2 ans. Volonté de créer un groupe de contact, qu'est-ce que peut changer le réveil de la diplomatie française sur la question? Il existe, on peut le préciser, déjà un groupe de soutien à la Syrie qui a été mis en place en 2015, qui inclut Moscou, l'Iran et les États-Unis. Basma Khodmani, la France a les moyens de peser dans la crise syrienne?
Oui, elle a les moyens et peut-être beaucoup plus qu'elle n'a essayé de le faire jusque-là. Peut-être faut-il bien préciser où sont les créneaux, où sont les niches où pourrait intervenir la France. D'abord, elle a la confiance de l'opposition. Elle a été du côté des revendications démocratiques, elle a été du côté de l'opposition démocratique, elle a compris ce qui se passait en Syrie, elle a saisi les enjeux, et aujourd'hui c'est vrai que le récit en France du conflit syrien, il reste exact, si vous voulez. Et ça, c'est un élément très important. Bien sûr, le combat contre Daesh est devenu une priorité suite aux attentats qui ont eu lieu en France. Le président Macron suit les intérêts vitaux de la France, le terrorisme est une priorité. Mais je pense qu'il a très vite compris aussi que le problème venait d'ailleurs, et que si nous avons du terrorisme en Syrie, c'est qu'il s'est produit quelque chose qui a amené les terroristes. Ce quelque chose, c'est une dictature sanguinaire, parce que le jour où elle a été défiée pacifiquement, elle a immédiatement riposté par les armes. Alors, cette position française qui est de vouloir créer un groupe de contact me paraît intéressante parce que le conflit syrien souffre du manque de gestion de la crise de manière responsable. Les États-Unis considèrent que la Syrie, c'est un irritant, comme on disait à l'époque d'Obama. Un irritant parce que on s'y attendait pas, c'est embarrassant, que fait-on? La réalité, c'est que les États-Unis n'ont rien fait, ni sous Obama, ni pour l'instant sous Trump, qui s'est donné pour seul objectif le combat contre Daesh. Ce n'est pas ça, le conflit syrien. Il fallait faire le lien entre le combat contre le terrorisme et la solution du conflit. Le fait est que la France, lorsqu'elle dit un groupe de contact, c'est la proposition d'une structure qui gère dans la durée la question syrienne et s'en occupe de manière sérieuse. Nous avons besoin d'une implication internationale sérieuse, autant des États-Unis que de la France, l'Europe, également la Russie, bien entendu. S'il est possible d'arriver à un consensus sur une approche pour la Syrie, c'est comme ça qu'elle sera trouvée, à travers un échange permanent entre les membres du Conseil de sécurité. Je dirais les 5 puissances internationales plutôt que les régionaux. Les régionaux font autant partie du problème que de la solution. On l'a dit à propos de l'Iran. Je crois que la décision ou le signal doit venir du Conseil de sécurité pour que les autres pays comprennent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire en Syrie. Sinon, chacun prend sa part en Syrie, son petit morceau stratégique qui lui convient, et il n'y a plus de Syrie. Pour la France, cette relation ancienne, cette relation historique signifie que l'État syrien a été modelé sur le modèle français. Un système juridique, judiciaire, entièrement français. Les avocats, les juges en Syrie sont formés à l'école française. Si on veut une continuité de l'État en Syrie, il faut reparler de l'État de droit. Il faut reparler de la justice en Syrie. Peut-être si le départ d'Assad irrite M. Poutine chaque fois qu'on en parle, parce que ça ressemble à ce qu'on appelle le régime change qu'il déteste, alors peut-être faut-il lui dire, mais Monsieur le Président Poutine, vous voulez garder Assad, commencez par lui dire qu'il ne peut pas continuer les crimes de masse qu'il commet, car tous les jours des gens sont exécutés, qu'il dissolve les tribunaux d'exception, tribunaux de terrorisme, tribunal militaire, tribunal je ne sais quoi, qui émettent des jugements totalement arbitraires. Commençons par démanteler cet appareil de répression criminelle avec lequel il n'est pas possible de continuer à vivre. Donc, il ne peut pas y avoir de processus à Genève si nous n'avons pas un début d'engagement des cinq pays, donc de la Russie aussi, pour dire commençons par avoir un régime qui montre quelques signaux de coopération. S'il n'y a pas de coopération, comment voulez-vous que l'opposition dise autre chose que nous voulons le départ d'Assad ? Nous avons aujourd'hui cette position dans une grande partie de l'opposition, tout simplement parce qu'elle n'a jamais réussi à obtenir la moindre coopération de la part d'Assad. Mais l'idéal, bien sûr, c'est qu'Assad s'en aille pacifiquement, c'est que nous organisions ce départ de manière à ce qu'il soit contrôlé et que le pays ne tombe pas dans le chaos libyen, irakien, yéménite que nous avons vu. Nous voyons tout cela, nous en sommes tout à fait conscients et nous sommes conscients des risques. Mais il faut faire quelque chose pour éviter que ceci se produise. Ça n'est pas en maintenant Assad et ses prisons que nous allons pouvoir le faire. 300 000 entre prisonniers et disparus aujourd'hui en Syrie.
Alors, la question d'Assad, Yves Aubin de la Messusière, elle est un sujet de dissension entre les puissances qui ont des intérêts en Syrie. Vous souhaitez rajouter quelque chose sur l'initiative de la France, le groupe de contact souhaité par le président Macron, Yves Aubin de la Messusière?
Donc c'est une initiative tout à fait importante qui était déjà dans les cartons. D'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères, on y réfléchissait depuis longtemps puisque c'est sur le modèle de ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie quand il y a eu ce groupe de contact avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Parce qu'il s'agit bien des membres permanents du Conseil de sécurité. Souvent, c'était le langage qu'on entendait chez les Européens, chez les Français aussi, à un moment, c'est dire, Bachar est là, et donc il faut rediscuter avec lui. Alors moi, je me pose la question, quelle utilité de parler avec Bachar el-Assad, même au nom du pragmatisme et du réalisme? Parce que, en fait, il ne contrôle rien. Quand on voit les images, par exemple, à Alep, où on voit les soldats syriens victorieux, brandissant les portraits de Bachar el-Assad, mais vous l'avez laissé entendre, mais qui a permis la reconquête de Alep Est? Ce sont les milices irakiennes, chiites, et puis il y a aussi le rôle du Hezbollah, etc. Et je pense que dans les zones qui sont maintenant, au moins politiquement, sous le contrôle de Bachar el-Assad, il aura des difficultés à se maintenir s'il n'y a pas toujours le soutien de ces milices, notamment, et aussi, bien entendu, le soutien russe et iranien. Alors, pour revenir au groupe de contact, il y a eu effectivement à New York une réunion au niveau des hauts fonctionnaires et ensuite des ministres des Affaires étrangères. Et pour l'instant, des résultats ne sont pas là. Je pense qu'il va mettre une accélération pour pouvoir essayer d'avoir un accord au niveau du P5, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité, avant la prochaine réunion du processus de Genève. Mais son idée aussi, et ça ne va pas dans le sens que disait Basma Khodmani, son idée aussi, c'est d'y mettre le moment venu, parce qu'il s'agit d'aller vers une solution politique, les acteurs régionaux. Alors les acteurs régionaux, c'est la Turquie, qui est amenée à jouer un rôle, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, beaucoup plus important, et donc surtout l'Iran. Enfin, il y a l'Arabie Saoudite, hein. Même si elle n'est pas présente sur le plan militaire, elle s'est un peu désengagée parce que sa priorité, c'est au Yémen. Eh bien, le problème, c'est l'Iran. Parce que dans les discussions, d'après ce que je comprends avec les Américains, il n'est pas question d'associer les Iraniens, de les mettre autour de la table. Or, on estime actuellement en France que c'est une nécessité. Donc il y a ces discussions. Le premier temps, c'est le P5. Moi, je pense aussi qu'on devrait y mettre, comme pour l'accord nucléaire, le P5+1, c'est-à-dire l'Allemagne, qui est directement concernée par le conflit syrien, dans la mesure où elle a accueilli 500 000 Syriens sur son territoire. Alors voilà, il y a cette dynamique qui fait que peut-être ceci laisse un espoir pour l'avenir. Ce qui va se passer probablement, il y aura des zones d'influence. C'est-à-dire, sous influence turque, là on voit très bien, aussi il y a les Kurdes qui vont être dans une forme de facto d'autonomie. Et il y a, on va voir quel sera l'avenir aussi de Raqqa, parce que personne ne pense à l'après-Raqqa. Qui va gérer Raqqa? On ne sait pas. Et ce ne sont pas normalement les troupes syriennes non plus du régime de Damas. Alors tout ça est une grande confusion, tout ça demandera du temps, mais À mon avis, la seule solution, la seule perspective réaliste pour l'avenir, ce moment du temps, c'est à travers le processus onusien, et c'est la politique de la France et des Européens actuellement.
Processus onusien, donc, pour avancer un tout petit peu dans le débat, la question kurde, est-ce que le référendum qui a eu lieu au Kurdistan irakien est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle pour les Kurdes en Syrie, Jean-Dominique Marchais?
Oui, je vais vous répondre, mais je voudrais quand même apporter des bémols à ce que nos deux interlocuteurs précédents viennent de dire sur le rôle de la France. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur la capacité de la France d'influer sur le dossier. D'abord parce que la France s'est beaucoup trompée dans son évaluation de la situation depuis 2011. Tous ces gouvernements ont cru que le régime allait tomber vite. Et il y a eu des erreurs réelles d'évaluation de la situation. C'est-à-dire que on n'a pas compris que ce régime conservait une base sociale minoritaire, certes, mais suffisante pour se maintenir pendant 4 années, et que, de toute façon, ses alliés internationaux étaient décidés à ne pas le laisser tomber. Donc nous nous sommes trompés. Le résultat n'est pas du tout celui que nous attendions au départ. Donc aujourd'hui, on n'a pas grand-chose comme carte à jouer. Alors on dit, on va faire l'ONU, tout simplement parce que le président Macron, qui vient d'être élu, a envie d'être un acteur de ce dossier. Mais quels sont ces éléments? On n'a pas d'argent pour contribuer à la reconstruction du pays, on n'a pas de moyens militaires qui nous permettraient de faire ce que les Russes ont fait, on n'a pas une influence politique dans la région, en réalité, aujourd'hui, suffisamment importante pour peser dans ces affaires. Donc, on essaie d'être présent, parce que c'est le rôle des diplomates. Les diplomates, ils veulent toujours être autour de la table, sinon ils ne servent à rien. Et donc, voilà, soyons quand même honnêtes intellectuellement. La capacité d'influence de la France sur le dossier syrien, aujourd'hui, est extrêmement réduite. Quant aux Kurdes, non, c'est jamais une bonne nouvelle de voir des États exploser, mais les processus sont en cours, et effectivement, on est là dans des affaires de longue durée sur la construction des États, donc voilà.
Alors, la reconstruction de la Syrie, il est évident que la France n'est pas en première ligne, hein. Ce serait plutôt les Russes et les Iraniens, avec des choses qui se trament et qui se préparent déjà. La plus grosse erreur, même si la France a fait des erreurs, la plus grosse erreur, Basma Khodmani, très rapidement, c'est tout de même la décision Obama de ne pas intervenir en 2013.
Bien entendu, c'est d'avoir dit à Assad par cette non-intervention qu'il pouvait continuer. Et c'est ce qui s'est produit, il a continué. Je pense tout de même que si l'on parle de diplomatie, on arrive à un moment où les Russes ont effectivement créé un nouveau rapport de force sur le terrain et les Iraniens en bénéficient. Cela dit, ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas réfléchi ni quelle constitution peut gérer ce pays. Ils en ont proposé une, elle était grossièrement erronée et a été rejetée. Et eux-mêmes n'ont pas insisté. Ils ne savent pas comment réorganiser le pays. Alors, la décision n'est pas tellement de savoir quel est le rapport de force sur le terrain, comment va-t-on le refléter dans une solution politique. Et c'est pourquoi, évidemment, dans ce cas-là, la France n'a pas de place, mais de dire... Est-ce que l'on veut une solution à ce conflit? Si l'on veut une solution à ce conflit, alors on veut une constitution qui garde toutes les composantes de la société syrienne ensemble, les Kurdes, les Alaouites, les chrétiens, les sunnites bien entendu qui sont la majorité, etc. Faut-il une constitution laïque? Alors discutons d'une constitution laïque. Si l'islam fait peur à d'autres, voilà, je pense que les Syriens accepteront très volontiers une solution de ce type-là. Faut-il une décentralisation? Faut-il donner aux Kurdes un statut spécial? Alors la France a peut-être des choses à proposer, puisque le processus de décentralisation est un processus dangereux s'il n'est pas bien contrôlé. On peut parler d'autonomie demain et de fédération après-demain, mais on y va comment? Alors la France a peut-être des choses à proposer. Donc nous cherchons un modèle pour sauver l'État et la société syrienne de manière à ce qu'il ne représente pas une source de menace pour la région et le monde. Formulé ainsi, là, les États ont des choses à proposer. Et la France est en première ligne parce qu'elle connaît l'État syrien et son fonctionnement. Et la culture d'État qui existe en Syrie, elle est chez tous les Syriens. Et les Syriens sont demandeurs d'un rôle français. Il faut le savoir, il y a une très forte demande d'un rôle de la France. C'est suffisant pour dire aux Russes, vous allez établir l'État de droit, excusez-moi, mais ça n'est pas sur la Russie que l'on va compter pour nous donner un État de droit en Syrie.
Et vous, Benjamin Lamussudière?
Alors, juste un mot là, concernant le Kurdistan, là, parce que, à travers ce référendum que Barzani a gagné, 92%, en fait, c'est pour retrouver sa légitimité, mais il ne la proclame pas. et à mon avis, il ne va jamais la proclamer. C'est une carte pour lui, pour discuter avec l'État central d'Irak, pour peut-être élargir les frontières de l'autonomie, avoir davantage de ressources. Il faut voir que Barzani a fait des déclarations tout à fait intéressantes il y a quelques mois, pour se dire qu'il n'est pas question qu'il y ait un État indépendant, même une autonomie véritablement construite, dans la région kurde syrienne. Donc ils ne sont pas en accord entre eux. Voilà. Alors pour revenir là au rôle de la France, et je rejoins tout à fait à ce que dit donc Basma Kodmani, donc il y a une histoire entre la France et la Syrie. Le droit, effectivement, est un droit d'inspiration française, comme on l'a fait pour d'autres pays, s'agissant par exemple de la Constitution. Je ne pense pas que la France sera totalement absente, mais là où la France peut jouer un rôle, c'est effectivement pour peut-être essayer, en prenant contact avec l'ensemble des parties, donc il y a des contacts très approfondis avec la Russie, il y a aussi, c'est très important, avec Washington, parce que pour l'équilibre entre les deux grandes puissances, on a besoin de l'Amérique. Et c'est là où il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis aussi, c'est parler aux Iraniens, c'est parler aux Saoudiens, c'est parler aux Jordaniens, à l'ensemble des puissances régionales.
Alors, très rapidement, Jean-Dominique Merchet, vous voulez peut-être réagir. Et j'aurais une dernière question pour Basma Kodmani. C'est les Syriens eux-mêmes, quel choix se présente à eux pour conclure ? Jean-Dominique Merchet.
Tout le monde souhaite une solution et tout le monde aimerait que la France puisse y contribuer parce que c'est, voilà, on est censé porter des idéaux. En même temps, vous savez, le bilan de la France en Syrie, sur la longue durée, c'est-à-dire sur le XXe siècle, il est quand même pas très bon. On a été une puissance coloniale assez désagréable. Les Syriens se sont battus contre les Français. La France a bombardé Damas contre les Syriens dans les années 20. On a été une puissance occupante. Les Syriens se sont libérés des Français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a pas laissé que des bons souvenirs. Nous aussi, on a pensé détruire ce pays en créant une république alaouite, enfin, détruire ce pays, l'organiser autrement, une république alaouite, une république druze, enfin, bref. Cette histoire, les Français la connaissent pas parce que elle a été complètement effacée de la mémoire nationale. On ne l'enseigne pas en France, l'histoire coloniale de la France dans cette région du monde. Les gens de Syrie, eux, la connaissent. Donc, je modérerais le grand amour des Syriens pour la France.
Alors Basma Kodmani, très rapidement, d'abord je vous ai vu sourire à ce que disait Jean-Dominique Merchet. Très rapidement, en guise de conclusion, Basma Kodmani, les choix qui se présentent aux Syriens aujourd'hui ?
La demande de France chez les Syriens est là parce que la France, effectivement, peut jouer un rôle plus constructif. Les rôles américains étant absents, le rôle de la Russie ayant été très destructeur, et pourtant on accepte cette présence russe comme une réalité, on voudrait la tempérer en Syrie et on regarde vers des pays qui peuvent apporter quelque chose dans la reconstruction de l'État. Car c'est là que nous voulons...
La Chine, mais la France...
Oui, mais la fédération allemande ne convient pas pour la Syrie.
C'est non, plutôt une imitation.
Oui, oui, nous sommes sur une question de modèle.
Je ne crois pas au modèle.
Bon, en tout cas, on a bien noté.
En tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Tout est relatif, bien sûr. C'est pas un grand amour, mais c'est une attente. Je dirais simplement, ce que les Syriens cherchent aujourd'hui, c'est le retour de l'État unifié, l'intégrité du territoire syrien et le fonctionnement des institutions. Ce sont des grands mots, car cela implique effectivement le démantèlement de tout l'arbitraire et tout ce qui est exceptionnel, d'un système mafieux qui a régné et qui a provoqué la révolte du peuple, peut-être même encore plus que la demande de démocratie, c'était la demande de fin de la corruption. Donc c'est cela que les Syriens attendent. Ils savent qu'Assad est là pour quelque temps encore et qu'il ne sera pas, ce ne sera pas eux qui décideront quand il s'en va. Il faut savoir cela. Ce sont les grands pays, mais en attendant, ils veulent s'assurer qu'on ne retourne pas à la terreur.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci Basma Kodmani. Je rappelle que vous êtes directrice de l'initiative arabe de réforme et membre depuis 2016 de la délégation des négociateurs de l'opposition syrienne à Genève. Yves Aubin de la Mussouzia, ancien directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, Quai d'Orsay, et ancien ambassadeur en Irak, Tunisie et Italie, et auteur de Monde arabe, Le Grand Chambardement aux éditions Plomb. Et Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions stratégiques et internationales. Jean-Dominique Merchet qui, sur un autre registre, publie très prochainement Macron Bonaparte chez Stock. C'est la fin donc de Géopolitique depuis Nantes, où se tenaient les Géopolitiques de Nantes, une édition signée Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes et Nathalie Laporte à Paris. Demain, Géopolitique sera consacrée au conflit israélo-palestinien. À demain.